Bon après-midi donc à tous et à toutes. Hein? Quelques-uns d'entre nous avons passé les dernières heures. C'est bon de revoir notre sœur Gloria de retour. Moi, j'étais pas là dimanche dernier. Tu peux lui dire en espagnol qu'on est heureux de la revoir. Alors, nous étions à Actonville. Et nous étions dans ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent la maison Nao. C'est un grand manoir sur un très beau site à l'orée d'un bois qui vibre au roucoulement d'une rivière tout à côté. C'est magnifique, hein? On entendait les oiseaux et ça nous rappelle à quel point nous vivons dans un beau monde. C'est un beau monde parce que c'est le monde de Dieu. C'est le monde que Dieu a créé. C'est le monde qui est sorti des mains de Dieu. J'aime cette expression parce que « main » veut dire « manufacturé par Dieu », ce monde-là. En même temps que c'est un monde très décevant. Et comme on le dit souvent dans le monde, la raison est simple. Le monde est décevant, comme plusieurs le disent, à raison de la stupidité humaine. Et ça nous interpelle un peu parce qu'on est partie prenante de l'humanité. Mais on entend les discours qui se tiennent, on voit les actions qui s'opèrent, et on est souvent de fois étonné, même par nos propres actions, souvent de fois, vous savez. Vous avez certainement entendu dire, comme moi, des gens qui, au fait de leur gloire et qu'on interviewait, et on les félicitait, on les gratifiait, on les honorait, et on leur demandait ce qui les avait le plus déçus dans tout leur parcours, dans toute leur existence, et très très souvent de fois, ils nous arrivent avec cela, c'est la stupidité humaine. C'est quand même intéressant. La Bible parle de la stupidité humaine, mais elle utilise une autre terminologie. La Bible ne parle pas de la stupidité humaine, elle parle du péché. Effectivement, le péché, c'est la stupidité de l'humanité. La Bible nous parle du péché. La Bible contient au total 1185 chapitres. Et dans tous ces chapitres-là, à l'exception des deux premiers et des deux derniers, le péché est présent. Et le péché vient miner chaque action. J'ai presque envie de dire qu'il vient hypothéquer toute espérance humaine, quoi. Et pourtant, le monde continue à courir. Le monde continue à courir après son rêve, après ses fantasmes. Et lorsqu'on garde le monde aller, nous avons droit à un cours intensif sur comment faire du surplace 101. Hein? Parce que c'est littéralement cela, comment faire du surplace. C'est la raison pour laquelle les bienheureux, ceux qui ont reçu une intelligence spirituelle, ont toujours eu les regards vers le haut, ont toujours eu les regards vers l'Éternel. Saint Augustin disait, une parole qui nous est certainement familière, s'adressant à Dieu de dire « Tu nous as créés pour toi et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » On est toujours en train de courir après l'éphémère, qui demande toujours davantage d'éphémère. On est toujours en recherche de récréation, jusqu'à ce que notre cœur me repose en l'Éternel. Le réformateur Jean Calvin décrit le sommet du bonheur, c'est jouir de la présence de Dieu dans les cieux. Le puritain Richard Baxter n'est pas en reste dans ses propos lorsqu'il considérait la gloire à venir comme l'état de bonheur le plus élevé du chrétien, le décrivant en termes de, et je cite, « la parfaite jouissance éternelle de Dieu par les saints glorifiés ». Nous avons la jouissance de la présence de Dieu parmi nous, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, mais ce n'est pas encore dans la perfection, on est toujours dans le déjà, le pas encore. Le petit catéchisme de Westminster tient le même discours. Question numéro 38. Il nous dit, « Quel bienfait les croyants recevront-ils du Christ à la résurrection? » Et la réponse va comme suit. À la résurrection, les croyants ressuscités en gloire seront publiquement reconnus et acquittés au jour du jugement, ils seront parfaitement heureux à jamais, se réjouissant en Dieu. Notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il repose en Dieu. Et bien avant eux, bien sûr. En eux, le témoignage de l'Écriture sainte elle-même. David disait, psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Et ce n'est pas uniquement de la poésie, c'est une révélation divine, c'est une réalité que nous sommes invités à expérimenter. Et parfois, c'est une lutte, et c'est souvent de fois une lutte, mais c'est nôtre. La vie d'Abraham peut se résumer comment? À partir du verset qu'on retrouve dans Hébreu, où il nous est dit, « Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Alors, il y a eu une vie bien remplie, il n'a pas manqué d'action, Abraham, hein? Mais il attendait la cité à laquelle nous appartenons. On est de passage, nous, hein? C'est un tourisme qui nous apparaît long parfois, mais nous sommes des touristes, on n'est que de passage. Sous la plume de Paul, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. On apprend à vivre, on devra apprendre à mourir. Physiquement, parce que notre mort physique, c'est notre vie spirituelle à l'éternité, Philippiens 1, 21. L'apôtre Jean suit les mêmes traces en 1 Jean 3, verset 2. « Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, je dis bien, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » On va être semblable à qui? On va être semblable au Christ. On ne deviendra pas invisible, esprit parfait. Hein? On va ressembler effectivement au Christ. Tout ceci pour dire, bien-aimé, que la vie à venir, pour nous croyants, c'est un paradis restauré. C'est un paradis parfait. Et j'hésite à prendre l'expression parce que ça pourrait nous faire croire qu'on revient au paradis terrestre. Ça va être infiniment mieux. Ça va transcender le paradis terrestre. Le paradis terrestre est encore une espèce de probation, pour ainsi dire. Alors que dans la Nouvelle Jérusalem, tout va être clos. Tous les dossiers vont être fermés. L'éternité va se vivre sans leurre et sans aucune désillusion. Et ça nous amène à notre texte d'aujourd'hui, Apocalypse chapitre 21, les versets 22 à 27. Donc, on approche la fin, hein? C'est la fin du chapitre 21, il nous restera le chapitre 22 par la suite. Donc, Apocalypse chapitre 21, versets 22 à 27. Que je lis dans la même version que notre frère Dave tantôt. La Genèse 1910. Verset 22. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Il faut bien avouer qu'on ne détesterait pas avoir une copie du livre, hein, malgré que pour ceux qui sont sauvés, qui ont le témoignage de l'Esprit, on sait que notre nom y est, mais ça serait intéressant de savoir qui y est et qui n'y est pas. Mais le Seigneur nous a donné un mandat, sachant que la prédication de l'Évangile, comme on le dit très souvent, a un double effet. La prédication de l'Évangile n'a pas que pour but que de sauver les gens. Elle est alliantielle, elle amène les élus à la connaissance du Seigneur Jésus, elle les amène à la repentance et à la foi, et elle confirme la perdition des élus. Il ne faut pas penser des non-élus. Pas penser que les réprouvés sont de pauvres innocents qu'on doit prendre en pitié. On a compassion d'eux parce que c'est là où on serait si Dieu ne nous avait pas fait grâce. Mais on est responsable, on est coupable de nos péchés. On ne peut pas blâmer les autres et on ne peut pas blâmer Dieu de ne pas avoir donné un salut universel. Dieu, dans toute l'histoire de la rédemption, révèle qui il est. Il révèle certainement sa gloire dans cette création majestueuse, dans ces saisons qui se succèdent, dans tout ce qu'on peut voir de beauté, de grandeur, de majesté, dans tout ce qui se manifeste dans la nature. Et également, il manifeste sa grâce dans le salut des élus qui ne méritent que le châtiment éternel. Il révèle également sa justice en envoyant en enfer des gens qui ont péché contre lui. Vous savez, un seul péché contre l'éternel, c'est énorme. C'est le saint des saints, c'est l'impeccable, c'est la définition, c'est la référence ultime de tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui devrait être. Et nous avons été créés à son image, et c'est dans ce but-là qu'on existe, pour le refléter, lui, qui il est. On est devenu, à raison du péché, des caricatures, mais nous sommes appelés à être ses images, voyez. Alors quand Dieu envoie en enfer, effectivement, des pécheurs, il ne fait qu'opérer sa justice. Et lorsqu'au sein de cette troupe-là, énorme de pécheurs, il en sort une partie pour les sauver par grâce, dans un seul but, nous dit Éphésiens, à trois reprises, Éphésiens 1, pour servir à la louange de sa gloire. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Vous ne le savez pas non plus. Il doit y avoir un lien quelque part. Comme nous l'avons vu dans le passé, à partir du début de ce chapitre-là, cette section s'ouvre sur la venue de la ville sainte. Et la ville sainte, c'est l'Église. Il n'y a qu'une seule Église, parce qu'il y a un seul peuple de Dieu qui réunit, qui regroupe tous les sauvés, tous les saints de l'Ancien Testament, tous ceux qui étaient nés de nouveau dans l'Ancien Testament et tous ceux qui sont nés de nouveau dans le Nouveau Testament, qui sont dans, et l'Église nous est présentée ici dans son état glorifié. Et comme on l'a dit, la forme cubique de cette cité-là, tout comme le Saint des Saints, dans le temple et dans le tabernacle, hein, nous dit que cette cité-là, comme le Saint des Saints, donc, décrit la résidence, l'habitation de Dieu. Dans le Saint des Saints, Dieu était sous la protection des deux chérubins, on s'en souviendra. À partir du verset 22, l'apôtre Jean y va de l'observation de la vie dans cette cité éternelle-là. Il synthétise ça par trois affirmations, et c'est particulièrement intéressant parce que ce sont trois affirmations dans la négative. Et c'est souvent ce que font les théologiens d'ailleurs, parce que notre vocabulaire est limité pour décrire tout ce qui est divin, tout ce qui appartient au royaume de notre Dieu. C'est souvent ce que font donc les théologiens pour décrire ce genre d'éléments-là qui transcendent notre rationalité. C'est souvent ce que font les théologiens pour décrire les éléments du royaume qui vont au-delà des limites de notre vocabulaire. Par exemple, lorsqu'on parle des attributs non communicables de Dieu, il y a des attributs communicables, d'autres qui ne le sont pas. Lorsqu'on parle des attributs non communicables de Dieu, les théologiens emploient des termes négatifs. Lorsqu'on parle de la grandeur de Dieu, on dit qu'il est infini. Ça veut dire quoi? Il n'est pas fini. Comment est-ce qu'on dit cela? On ne peut pas le dire autrement. On dit qu'il est infini. Oui. De même, lorsqu'on décrit sa vie en termes d'immortalité, on veut dire qu'il n'est pas mortel. Oui. Nous, nous avons reçu la vie éternelle, mais on demeure des êtres mortels, on va mourir, comme tous les êtres humains. Hein? Mais Dieu est dans une catégorie à part, pardon. Il est immortel. Quand on dit Dieu est immuable, ça veut dire qu'il est stoïque. C'est pas M. Spock. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fluctuation, il n'y a pas de changement dans son essence. Vous savez, c'est un encouragement, ça. Hein? On est tous un peu quelque part, dépendamment de nos journées, un peu pélagiens. C'est évident qu'on veut faire le bien. Je pense que c'était bien exprimé par la prière de notre frère Dave aussi. Et on veut plaire au Seigneur. Notre plus grand désir, c'est de plaire au Seigneur, et notre grand déplaisir, c'est qu'on sait qu'on est loin de lui plaire, constamment loin de lui plaire. Quand on lui plaît, c'est sa grâce qui nous amène à faire de bonnes choses. Mais lorsqu'on a eu de mauvaises journées, ça vous arrive? Et quand je parle de mauvaises journées, c'est pas que ça m'a été à chope, là. Tu sais, je veux dire, quand on a péché, qu'on a eu plein d'accros dans la journée, qu'on se sent tellement petit, tellement indigne, et qu'on arrive pour prier Dieu, on se dit peut-être que je devrais attendre demain, il ne doit pas être content. Non, il est immuable dans son amour. Il nous aime autant lorsqu'on était bébête que lorsqu'on croit avoir été saint. La doctrine de l'immuabilité divine. On dit aussi mutabilité, d'une grande importance. Et c'est comme ça que Jean approche notre gloire future. Un élément, encore une fois, incompréhensible, qui va au-delà de nos esprits finis, il le fait dans la négative. Oui. Il nous dit simplement que cette cité céleste sera sans temple, une négation, sans soleil, une autre négation, et sans péché. Trois négations pour nous décrire notre cité future. Trois absolus qui ne peuvent se traduire autrement. Amen. Et la première, donc, de ces affirmations négatives se trouve au verset 22. « Je ne vis point de temple dans la ville. » Ça, c'est une affirmation qui peut paraître étonnante. Je ne vis point de temple dans la ville. Hein? Dans toutes les villes de la planète, on retrouve des lieux d'adoration. On en retrouve partout parce que l'homme est une créature d'adoration. Nous avons été créés adorateurs, voyez-vous. Soit qu'on adore Dieu ou soit qu'on adore des idoles, mais nous adorons. C'est nous, c'est ce que nous sommes, voyons. Calvin disait, l'homme est une manufacture d'idoles, il avait parfaitement raison. Hein, si on n'adore pas notre Dieu, on va se trouver quelque chose d'autre qui va nous servir de référentiel. Nous sommes par nature donc des adorateurs. Donc, dans toutes les villes où vous allez trouver des temples, des synagogues, des mosquées, des églises, quoi. En Espagne, je l'ai trouvé la cathédrale de Séville. Déjà allé, non? En Italie, la cathédrale du Duomo di Milano. À Barcelone, la basilique Sagrada Familia. En Constantinople, plus précisément à Istanbul, l'ancien Constantinople, qu'est-ce qu'on retrouve? L'église Sainte-Sophie, right? Devenue une mosquée maintenant, mais c'est quelque chose, hein? L'église Sainte-Sophie. Et en France, on parle de Notre-Dame de Paris. Et à Montréal, on parle de l'église réformée baptiste de la Trinité. Voilà. Et nous sommes d'accord pour dire, Dave a fait tellement une belle synthèse de ça dans sa prière, que le temple des temples était à Jérusalem. Il existait ce temple-là pour la protection du peuple en raison de la sainteté de Dieu et du grand besoin de pardon. On sait comment ça se passait avec le pervers extérieur. On entrait par le biais de sacrifices, hein, par la médiation de sacrifices. On arrivait dans le lieu saint où il y avait tout le service des prêtres. Et une fois là, le grand sacrificateur entrait une fois pour faire l'expiation des péchés au grand jour des expiations. Et on savait jamais s'il allait ressortir vivant. Vous voyez, quand même intéressant. On attachait une chaînette à son pied au cas où on n'entend plus rien, plus de son, on l'aurait sorti en le traînant. Mais quoi qu'il en soit, Dieu, dans sa miséricorde, accordait le pardon à son peuple et ça se poursuivait. C'était le temple de Jérusalem. Voyez. Il y a tout un message là-dedans, lorsqu'on parle du Saint des Saints. Parce que lorsque le Christ est ressuscité, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ben, la résurrection, c'est extraordinaire, bien sûr. Mais ce déchirement du toit, du voile, ce déchirement du haut en bas, cette espèce d'ouverture du Saint des Saints à l'adoration de tous les adorateurs, à l'adoration de tous ceux qui voulaient rencontrer Dieu, s'est opéré là. Ça s'est déchiré de haut en bas, tout d'un coup. On ouvrait l'accès à la présence de Dieu par la résurrection du Christ Jésus. Son service était pleinement accompli maintenant. Il devenait vraiment maintenant le médiateur en fonction, si vous passez l'expression un peu banale. Les temples n'avaient d'existence que pour permettre une rencontre avec Dieu. Il en sera tout autrement dans la Nouvelle Jérusalem. On nous dit rapporté, verset 22, « Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » La bonne nouvelle, voyez, avec la Nouvelle Jérusalem, c'est qu'il n'y a personne qui va manquer le culte. On va vivre dans le sanctuaire. On va vivre dans l'Église. On ne pourra pas dire, ah ben, une telle, ne sont pas là ce matin ou cet après-midi. On va toujours être là. Parce qu'on va vivre dans un sanctuaire. Sanctuaire, c'est le lieu saint par excellence. Et la Nouvelle Jérusalem, ça va être ce lieu de sainteté où nous allons constamment vivre et opérer à titre de racheter l'Éternel, notre Dieu. William Hendrickson, c'est un bon livre à lire, soit dit en passant, j'ai oublié le titre là, quelqu'un veut me le rappeler, sur l'Apocalypse, son commentaire sur l'Apocalypse. Il y a bien des choses qui m'échappent, là, c'est le titre qui m'échappe, c'est excellent. Il exprime magnifiquement, il dit, « Le rayonnement de la majesté et de la gloire de Dieu dans toute sa plénitude remplit toute la ville. » Alléluia. Aucun sanctuaire n'est nécessaire, car la communion des croyants avec leur Dieu est directe et immédiate. Pas de médiateur, là. On est en direct, voyez-vous. Elle est immédiate. Mais Dieu sert de médiateur entre nous, mais on s'entend qu'on est en direct, directement communiqué avec connecté avec l'Éternel. Il dit, Dieu tabernacle. Avec son peuple, ils sont constamment dans sa présence immédiate, aimante et permanente. Vous voyez, le verbe tabernacle, vous savez d'où ça vient, bien sûr, skeno, hein, ça vient du Nouveau Testament, quand il dit que la parole a habité parmi nous. Le verbe veut littéralement dire « la parole a planté sa tente parmi nous ». C'est ce que skeno veut dire. Alors, c'est ce que le Christ est venu faire. La parole a habité parmi nous. Alors, qu'est-ce qui rendait le temple physique sacré? C'était la présence de Dieu. Ici donc, c'est l'entière nouvelle création qui se baigne dans la sainteté de Dieu. Nous sommes donc ici devant le développement du thème final, biblique, de l'habitation de Dieu avec son peuple. Lorsque Moïse est allé à la rencontre de Dieu sur la montagne, il a reçu un ordre. Il a reçu l'ordre de bâtir le tabernacle au sein duquel, dans le lieu saint, brillait, comme on l'a dit tout à l'heure, la gloire de Dieu, la Shekinah, en effet. Pardon. Plus tard, ce fut au tour de Salomon d'ériger une structure permanente du temple, sur le modèle du tabernacle, mais bien plus sophistiqué. Il était cependant bien conscient de l'insuffisance de son entreprise. Hein? 1 Roi, chapitre 8, verset 27, nous dit, et c'est Salomon qui parle, « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux, voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Et ce fut ensuite au tour de Jésus, la venue de Jésus. Et comme on l'a vu il y a un instant, il a planté sa tente parmi nous, il a tabernaclé parmi nous. Les gens n'avaient plus à aller au temple pour rencontrer Dieu, ils allaient à Jésus pour trouver la grâce du salut dans sa personne et dans son œuvre. Hein? Jésus lui-même, parlant de son propre corps, dira dans Jean 2, 19, « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Oui? » Il était le temple de Dieu. Et Emmanuel, Dieu avec nous. Et le temple a fait un autre pas avec l'ascension du Seigneur Jésus et avec l'envoi de son esprit sur son peuple. Et c'est le propos inspiré de Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Tout un message. Et quand on se lève le matin un peu courbé, notre vieux corps, « Oh, c'est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je vais faire avec aujourd'hui? » C'est dire que d'ores et déjà l'Église est l'habitation de Dieu sur terre. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 2, versets 4 et 5, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. » Des pierres vivantes, pas juste des pierres, des pierres vivantes. « Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » C'est pas petit comme posture d'être le temple du Saint-Esprit. On en disconviendra certainement, parce que ça nous en dit long sur notre marche au quotidien. Qu'est-ce qu'on met dans un temple? On va pas jeter nos vidanges. Ce n'est pas une place de récupération, ce n'est pas un lieu vague, mondain. Dans un temple, on met des choses saintes, on met des choses pures. Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? On adore Dieu. Quelle est la raison d'être d'un temple? Sinon que la manifestation de la présence de Dieu. Et nous sommes des pierres vivantes. L'une des qualités des pierres, bien sûr, c'est la solidité. Mais nous sommes des pierres solides, oui, mais vivantes. Comment se manifeste cette nouvelle vie qui est nôtre? Parmi toutes les foules qui professent la foi en Christ, combien s'avèrent être des pierres vivantes? Il y a des choses encourageantes quand même dans ce monde. Je lisais aux nouvelles ce matin ou hier à Fox News que le nombre de jeunes, le pourcentage de jeunes qui est de retour à l'Église, on n'a jamais vu ça depuis des années. Un retour à l'Église, un retour à l'intérêt aux choses spirituelles, certains pensent que ça pourrait même être l'aube d'un réveil, Dieu le sait. Mais on se réjouit quand les gens s'en vont être exposés à la prédication de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui fait l'œuvre en nous. Alors, parmi les foules qui professent la foi en Christ, combien s'avèrent être des pierres vivantes? Ce sont des réflexions importantes sur la réalité de notre foi, vous savez. Toujours dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10 et 11, « C'est pourquoi, frères, les sœurs sont bien sûr impliquées, Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Affermir, c'est quoi? C'est rendre plus ferme, c'est consolider, c'est grandir, c'est croître dans la foi. En faisant ça, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Donc, le premier point que développe l'apôtre Jean dans ces versets-là, c'est que ce sera une cité sans temple. Ou pour mieux dire, une cité-temple. C'est une grande cité qui sera un temple. Non seulement la Nouvelle Jérusalem est-elle une ville où le temple brille par son absence, mais selon le verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu, poursuit le verset, l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Tout comme la Shekinah, c'est la gloire de Dieu, hein, qui remplissait le temple à l'époque, ici encore, c'est la gloire de Dieu qui éclaire la Nouvelle Jérusalem. On sait, à partir du récit de la création, que la lumière existe sans les luminaires. Ce n'est pas le discours des scientifiques d'aujourd'hui et d'hier. Mais il y a une réalité à partir du récit de la création que la lumière existe sans les luminaires. Exemple, en Jean 1, 3, Dieu de dire que la lumière soit et la lumière fut. Et ce n'est qu'au quatrième jour qu'il va créer les luminaires. On l'a chanté tantôt, ou Daniel le jouait en introduction, lorsque le Seigneur jette la poussière étincelante, hein, il jette les étoiles, il jette les luminaires dans le ciel. Mais la lumière existait bien avant, elle existe indépendamment des luminaires. Les sécularistes contemporains, donc, s'évertuent à prétendre que la lumière ne peut exister sans le soleil, sans la lune et les étoiles, mais la Bible déclare que Dieu est la source de la lumière. Il est la lumière. Ainsi, lorsque sa présence remplit la cité éternelle, point n'est besoin de lumière, point n'est besoin d'astre, point n'est besoin de quoi que ce soit d'autre pour nous éclairer. Il est la lumière. C'est une belle réaffirmation de la splendeur insurpassable de la présence de Dieu et de l'agneau. Si vous prenez une chandelle en plein jour, par jour de grand soleil, que vous l'allumez, personne ne va remarquer cela. Hein? La brillance du soleil est telle que la petite luminosité de la chandelle a l'air absolument ridicule à côté. Ainsi en est-il de la lumière du soleil qui se dissipe devant la lumière qu'est Dieu et son Fils Jésus-Christ, devant l'éclat incomparable de la gloire de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Et ici encore, la gloire appartient et au Père et au Fils, verset 23. La gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Il y a au moins deux personnes, hein? Qui nous sont mentionnés ici. Enfin, ce n'est que pour nous réaffirmer la divinité du Seigneur Jésus-Christ dans le contexte intratrinitaire. Les deux sont égaux dans la divinité, mais le rôle du Fils est de manifester dans sa personne et dans son œuvre la gloire du Père comme une lampe, en fait, qui reflète la lumière. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Jean voit? Qui, par la lumière de Dieu, là, regarde dans la cité céleste. Bon, il nous donne un rapport de la circulation, si vous me passez l'expression un peu commune, il nous donne un rapport sur la circulation. Il nous parle d'une métropole grouillante, une métropole tout en activité. Les gens de tout le globe sont rassemblés pour adorer et pour un commerce saint. C'est ce qu'écrit le verset 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Nous avons ainsi le plein accomplissement de l'ancienne promesse faite à Abraham en Genèse 12, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais c'est intéressant, hein? Toutes les nations de la terre vont lui apporter gloire et honneur. Ça veut dire quelque chose, que ce qu'on fait ici sur terre, ce n'est pas perdu. On n'arrivera pas au ciel en disant, mais c'est rien passé avant. Toutes les nations de la terre vont apporter leur richesse culturelle, vont apporter leurs accomplissements devant l'Éternel. On va tout déposer ça aux pieds de Yahweh, notre Dieu, pour sa gloire et pour son honneur. On y retrouve bien sûr l'écho des paroles du prophète Michée. Chapitre 4, versets 1 et 2, il nous dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Ce n'est pas extraordinaire. On a l'impression de lire un texte du Nouveau Testament, d'un texte des Épîtres. Et pourtant, c'est un texte prophétique qui date de plusieurs siècles. Oui. Et pour des raisons de sécurité, on fermait les portes des anciennes cités. Lorsque la nuit était venue, on s'assurait, aux fins de sécurité, de fermer les portes. La situation est fort différente au verset 25. « Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire, comme on disait tout à l'heure, et l'honneur des nations. » On se rappelle, avec cela, les propos du prophète Ésaïe, chapitre 60, verset 11, « Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur culte. » Dieu, l'agneau et la lumière. La lumière, c'est un grand mystère. Mais en fait, ce premier mystère, ça n'existe pas, la lumière. On ne peut pas dire, voici, j'ai trouvé un peu. C'est-à-dire, l'obscurité n'existe pas. On ne peut pas dire, j'ai trouvé un peu d'obscurité, je l'ai amené chez nous. C'est simplement l'absence de lumière. La lumière, c'est ce qui autorise un contact avec la réalité, avec les formes, avec les couleurs, avec les mouvements, etc. Et c'est ainsi également dans le monde physique, et c'est ainsi également dans le monde spirituel. On n'a qu'à penser au psaume 119, verset 105, très connu. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Pensons à notre insécurité lorsqu'on marche dans le noir. Quelle devrait être notre reconnaissance au Seigneur de nous avoir sortis de notre aveuglement? Vous savez, lorsque Jésus parlait des pharisiens, qui étaient toujours scandalisés de son discours d'ailleurs, il déclare en Matthieu 15, 13, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous ceux dans une fosse, tous deux dans une fosse. » Comment on fait pour savoir qui est aveugle et qui ne l'est pas? Relativement simple. Tous sont aveugles. Relativement simple. Dieu s'est révélé. Ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine du présuppositionnalisme, qui veut dire qu'on commence avec cette réalité que Dieu existe et que la Bible est sa parole. La Bible commence comme cela. On n'a pas un prolégomène à la Bible. Dieu ne nous dit pas « je vais vous prouver que j'existe ». On le sait. C'est une vérité qu'on veut garder captive. Voyons? Quand Dieu commence, donc, il n'y a aucun prolégomène en disant « je vais vous donner les évidences que j'existe ». Il n'y a pas d'évidence possible. Il est au-delà des évidences. Au commencement, Dieu est venant. Et on a même un discours quelque part trinitaire. Dieu créa les cieux et la terre. Hop, la lumière et l'esprit qui se mouvait dessus des eaux. Hein? Les aveugles qui conduisent des aveugles. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu vient guérir notre aveuglement. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, nous dit 1 Jean chapitre 1, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Puisse cette lumière nous pénétrer toujours davantage. La nouvelle Jérusalem, donc, est sans temple. La nouvelle Jérusalem est sans soleil. Il y a une troisième affirmation. La nouvelle Jérusalem est aussi sans péché. Verset 27. Il n'entrera chez toi rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Tout péché de nous dire la parole est un manquement à la loi de Dieu. Amen. Tout péché est un manquement à la loi de Dieu. Et cette loi, elle est synthétisée dans les 10 commandements et elle est appliquée tout au long de l'Écriture sainte. Et parfois, on pense au sermon sur la montagne et à d'autres sections du genre. Et comme nous le verrons au verset 22, au chapitre 22, pardon, il n'y a aucun espace, il n'y a aucune fenêtre pour le péché au ciel. Chapitre 22, verset 15, « Dors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » L'apôtre Paul lui-même, vous savez, sous l'inspiration de l'Esprit, a une plume quand même assez zélée. Lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens, versets 9 à 11 du chapitre 6, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Les injustes, c'est ceux qui n'ont pas été justifiés. « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Vous savez quoi? Dans une société aussi morale que la nôtre, il y en a, on écoutait dans l'auto tout à l'heure un prédicateur qui disait, il y a beaucoup de gens qui se clament de l'amour de Dieu, mais qui disent qu'ils ont perdu la crainte de Dieu. C'est un peu contradictoire, mais c'est une réalité quand même. Lorsqu'on aime, on devrait craindre d'offenser la personne qu'on aime, n'est-ce pas? Alors, dans une société aussi morale que la nôtre, c'est essentiel de parler de Dieu, c'est essentiel de parler de sa haine divine du péché, comme l'adultère, l'homosexualité, l'idolâtrie, la cupidité, le vol, etc. On expérimente aujourd'hui une grossière intolérance face au jugement de Dieu sur ces péchés-là. C'est comme si c'était un peu banal. Même dans l'Église, on peut banaliser le péché, vous savez. Et on ne mettra pas moins d'accent sur la sécurité du croyant, sur la certitude du salut et sur le fait qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on ne peut pas banaliser le péché. On doit continuer de marcher d'une manière révérentielle devant notre Dieu. Donc, on doit parler encore des péchés aujourd'hui, incluant le transgenrisme, etc. On doit en parler, mais on doit aussi proclamer qu'il est possible de recevoir le pardon en venant au Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix comme substitut du pécheur par son sacrifice vicarial. Jésus, c'est beau sacrifice, c'est le vicaire, beau sacrifice vicarial. Ce qui importe pour le croyant, ce n'est pas l'opinion publique, mais l'enseignement de la parole de Dieu. Citation de J.C. Ryle, le célèbre évêque anglican, qui écrivait avec justesse, « Vous savez bien qu'il existe de telles personnes, elles ne sont pas rares. Elles peuvent être honorables aux yeux des hommes, elles peuvent être sages et instruites dans cette génération, elles peuvent être des hommes d'affaires admirables, elles peuvent être parmi les premiers dans leurs domaines respectifs, mais malgré tout, il n'y a qu'un seul verdict à leur sujet. Elles sont considérées comme souillées aux yeux de Dieu et rien de ce qui est souillé n'entrera au ciel. » En contraste avec les impies, il y a ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, de nous dire le verset 27. On ne sait pas quelle page notre nom est écrit, mais si nous sommes en Christ Jésus, nous avons l'assurance qu'il l'est. Là où le jugement n'est rien d'autre qu'un démérite, puis il faut s'entendre lorsqu'on parle de démérite. Le jugement, c'est un démérite. C'est des gens qui ne méritaient que le jugement de Dieu. Le salut, lui, loin d'être un mérite, vient de la miséricorde du Christ pour les pécheurs et ne se reçoit que par la parole seule. Comme je le disais tantôt, même s'il ne nous est pas permis encore de regarder dans le livre de l'agneau avant le jugement final, nous ne sommes pas laissés dans un vacuum. Nous pouvons distinguer certains traits de caractère d'un vrai pénitent, sans devenir, comme on dit en anglais, « judgmental », sans être animé par un esprit de jugement, tous azimuts qui est bon. On peut distinguer le caractère d'un vrai pénitent comme une repentance sincère. La repentance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça aussi, c'est un concept qui a été banalisé. Pendant des années, et je m'en confesse et j'en demande pardon au Seigneur, j'ai critiqué une version un peu plus récente des Écritures saintes qui traduisait le mot « métanoïa », parce que c'est le mot grec pour « repentance », qui traduisait par « changement radical ». Mais effectivement, c'est vrai. Changement, oui, radical. Que veut dire le mot « radical » ? Ça vient du mot « radix », qui veut dire « racine ». La repentance, c'est un changement de notre racine de base, voyez-vous, la métanoïa. Métanoïa, métamorphose, changement de forme, métanoïa, changement de nous. Le nous en grec, c'est toute notre intériorité. C'est un changement phénoménal qui se produit. Ça veut dire qu'on devient parfait, prêt à aller au ciel immédiatement, à être enlevé de facto, qu'on est dans la gloire. Mais il y a un changement radical de disposition face au péché. Subitement, on devient en amour avec les commandements de Dieu, qu'on les trouve si beaux. Et on dit avec les païens, quel autre peuple a une loi aussi belle que ces Juifs-là? On trouve que la loi de Dieu est formidable, vous voyez? Ça, c'est à mon avis, c'est très important. C'est une manière de voir et de penser, et conséquemment, il y a un agir. On fait ce qu'on pense, on agit comme on pense. On devient conscient de notre culpabilité qui nous amène à chercher le pardon de Dieu en Christ Jésus. Alors, quand on se repent et qu'on vient au Christ Jésus, ce n'est pas une si grande démonstration d'humilité de notre part, pas du tout, on n'en a pas d'humilité, on est, passez-moi l'expression, pogné avec l'orgueil. Mais ce changement-là qui s'opère à l'intérieur fait en sorte qu'on ne peut passer à côté de la repentance. Fait en sorte qu'on ne peut plus continuer ici. On doit reconnaître notre faiblesse. Je peux dire qu'on marche misérabiliste constamment, mais on est vraiment conscient qu'on a besoin du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on a le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, on se réjouit, on est en lui. On a une assurance modeste. On continue encore de marcher dans la crainte de Dieu, mais on a une assurance, vous voyez. Comme on a coutume de dire, le salut opère une triple délivrance. Mais il opère une triple délivrance. C'est pas au choix, là. C'est pas un menu, pas la carte. C'est pas choisi un des trois. Il opère d'abord la délivrance de la condamnation du péché. C'est ce qu'on appelle la justification. On n'est pas fait juste. M'excuse, frère, j'avais le poteau juste devant nous. On est déclaré juste. C'est Dieu qui légalement prononce sa sentence parce que nous sommes en Christ Jésus. On est déclaré juste. Alléluia. Deuxième délivrance, on est délivré de la puissance du péché. C'est la sanctification. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus, mais on n'est plus des esclaves de ce péché-là, vous voyez? On va progressif, là. On va de plus en plus en victoire. On mûrit. Et je déteste tellement ça quand j'entends les Québécois utiliser le verbe « maturer ». C'est pas un verbe, c'est le verbe « mûrir » en passant. Alors, on mûrit, on grandit dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième délivrance, on est délivré de la présence du péché. On appelle ça la glorification et c'est ce qui va se produire dans notre texte d'aujourd'hui. Et c'est ce que le texte, effectivement, d'aujourd'hui nous affirme, voyez. 1 Jean chapitre 1 verset, pardon, 1 Jean chapitre 5 verset 1 à 5 nous donne trois évidences du salut. On cherche toujours des évidences, hein? Parce que, comme je vous le dis, les évidences ne sont pas toujours évidentes, si ça peut se dire ainsi. On cherche des évidences. Seigneur, je veux vraiment m'assurer que... Bon, l'assurance, bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui fait en sorte qu'on appelle Dieu Abba. C'est son Esprit en nous qui est la meilleure assurance. Mais quand on regarde un peu et qu'on veut, avoir quelques tests, quelques évidences du salut, ben 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 5 nous donne trois tests. Il y a un test doctrinal, il y a un test social et il y a un test moral. Le test doctrinal, bien sûr, c'est un amour pour Dieu. Un amour pour Dieu. Le mot « amour », hein, on l'a baigné dans n'importe quel vinaigre, hein, il y a tellement besoin d'être redéfini, mais vraiment un amour pour Dieu, un désir de marcher avec Dieu, de plaire à Dieu. C'est, je ne parle pas nécessairement d'une romance. Il peut y avoir un aspect romantique, ça dépend de qui nous sommes. Mais nous avons un désir de marcher pour lui, de plaire à notre Dieu. Deuxièmement, c'est le test social, l'amour pour les frères. Ah, moi, je suis sauvé, mais je ne crois pas à l'Église. Je ne vais pas à l'Église. Bon. Il y a des frères et des sœurs, là, tu rencontres où? Hein? On ne rencontre pas de frères et des sœurs. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait l'Église, pour que nous puissions marcher ensemble, nous inter-encourager progressivement, nous maintenir, nous garder dans la bonne voie et aller de l'avant. Ça ne se négocie vraiment pas. On ne peut pas dire « j'aime Dieu », mais je ne veux pas être membre de son corps. Vous voyez? Si on l'aime, on devient de facto membre de son corps et on fonctionne comme tel. On n'est plus des agents libres. Et troisièmement, c'est la haine du mal. La haine du mal. J'ai lu un jour un puritain qui disait « Je déteste aimer le mal ». C'était bien dit. Parce que quand on chute, on donne préséance au mal. Au moment de la chute, notre amour pour le mal est plus grand que notre amour pour Dieu, oui. J'avais trouvé l'expression très belle, je déteste aimer le mal. Alors, mais la haine du mal, on a la haine de notre amour, de certains péchés, de certains mals, de certains maux. Application. La première question du petit catéchisme de Westminster est la suivante. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Tout le monde se pose cette question-là. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que j'ai reçu la vie? C'est quoi la vie humaine? À quoi ça sert? Hein? Ou comme disait Yvon Deschamps, qu'à ça donne? Hein? À quoi ça sert? Et la réponse est, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Et c'est effectivement notre appel, bien-aimés, que de glorifier Dieu et de trouver en lui notre bonheur éternel. Nous ne trouverons jamais satisfaction dans les citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, pour reprendre les propos de Jérémie. Ces petites joies éphémères qui nous soulagent, qui nous apportent une petite satisfaction, un petit plaisir très temporaire. Dieu n'est pas contre. Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions, mais il ne veut pas que ça devienne notre recherche ultime. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous avons une stature de haut niveau. Nous avons reçu un ministère sacerdotal et prophétique. À quoi ça sert un prêtre? Ça intercède auprès de Dieu pour les gens. À quoi ça sert un prophète? Ça intercède pour Dieu auprès des gens. C'est le ministère de l'Église, vous savez. Nous avons reçu un ministère, nous sommes la lumière du monde, nous dit Jésus. Pas une lumière politique, mais une lumière théologique. Ne cherchons pas la lumière dans toutes les idéologies qui ont cours, et souvent de fois même qui viennent rendre toxiques certains aspects du milieu chrétien. Notre mandat n'est pas de faire des gains politiques ou conservateurs, mais de proclamer le Christ, lumière du monde, luminaire que nous sommes. La sanctification. Nous nous dirigeons dans un temple sans péché. Il nous parle d'édification. 1 Corinthiens 1:30-31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il a été fait cela pour nous. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Nous avons déjà une position de sanctifié. Il s'agit uniquement d'aller chercher notre position de sanctifié et de l'appliquer dans notre condition actuelle. Nous sommes appelés à la manifester de plus en plus dans notre condition présente. Étant sanctifiés, donc, nous sommes exhortés à rechercher la sanctification, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous sommes appelés à manifester ce que nous sommes à la gloire de notre Dieu. Amen.